Décryptage. Aurélien Devernoy.
Ils étaient début juin 200 000 bloqués en mer et autant à attendre de reprendre le travail depuis la terre ferme. Ces employés de la marine marchande sont des naufragés de la crise du Covid-19, empêchés de débarquer ou d'embarquer en raison des consignes sanitaires souvent différentes d'un pays à un autre, voire d'un port à un autre. Et ils ne sont pas les seuls puisque de nombreux salariés des navires de croisière font aussi face à ce problème. Et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne selon le pavillon de son navire, mais également son passeport. Alors pourquoi autant de difficultés? Où résident les responsabilités? Quelles solutions pour tous ces marins? Et quelles conséquences pour le secteur et le commerce international? C'est le sujet de Décryptage ce soir. Et pour en parler avec nous, Jean-Marc Lacave, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général d'Armateurs de France, c'est l'organisation professionnelle des entreprises françaises de transport et services maritimes. Également notre compagnie, Pascal Pouille, responsable des inspecteurs maritimes français, représentant des syndicats maritimes auprès de la Fédération internationale des travailleurs du transport. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Pascal Pouille, commençons avec vous. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ces chiffres? 200 000 en mer, 200 000 à terre, on est toujours dans cet ordre de grandeur ou bien la situation a évolué depuis le début du mois de juin?
200 000 marins en mer, j'aurais probablement doublé ce chiffre. La situation depuis quelques semaines, voire quelques jours, s'améliore légèrement, mais pas plus tard qu'il y a 10 minutes, j'étais en compagnie au téléphone d'une compagnie allemande qui cherche désespérément un vol pour Manille pour rapatrier 3 marins.
Alors comment on peut expliquer qu'autant de personnels navigants sont bloqués à l'heure actuelle? Il n'y a pas des protocoles sanitaires pour effectuer les changements d'équipage?
Écoutez, oui, il y a des protocoles sanitaires, mais il y a d'autres problèmes qui se sont greffés suite à la pandémie. Je vais parler par exemple des pays comme l'Inde, comme l'Ukraine, comme les Philippines, qui ont fermé leurs frontières et qui donc eux-mêmes interdisaient à leurs propres ressortissants de rentrer chez eux. Ensuite, toute l'aviation civile, la fermeture des aéroports, comme à Manille, par exemple, où le pays est sous cloche, donc beaucoup de difficultés à rapatrier les marins.
Alors Jean-Marc Lacave, même question, vous qui représentez les armateurs, c'est-à-dire les personnes qui affrètent les bateaux, qui permettent au commerce de se faire, comment ça s'explique de votre côté? C'est vraiment ces problèmes de déplacement, de fermeture de certains pays? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des problèmes de relations diplomatiques, diplomatico-économiques?
Oui, alors si vous me permettez, je voudrais que mon premier mot soit pour saluer les marins, parce qu'en tant que représentant des armateurs, ils viennent de vivre, et ils sont d'ailleurs toujours en train de vivre, une période particulièrement éprouvante, et on leur doit beaucoup dans leur bonne volonté d'assurer la continuité du service logistique. Vous savez, c'est une profession, il y a 1 600 000 marins dans le monde. Ils sont répartis sur environ 60 65 000 bateaux, et ils acheminent tous les jours continuellement les marchandises sur tout le globe, et toute la chaîne logistique en dépend, et elle est active continuellement, et sans eux on a les approvisionnements en énergie, les approvisionnements en nourriture, en biens essentiels qui ne se feraient pas. Et donc ils ont continué à travailler alors que tout a été désorganisé de fait par la pandémie. Tout ce huilage habituel qui est bien rodé, où des marins montent à bord tous les mois, environ 100 000 tous les mois montent à bord, 100 000 descendent de leur navire, c'est ce qu'on appelle les relèves, ça se fait aux quatre coins du monde. Et de fait, avec la pandémie, avec la question sanitaire, avec les fermetures de frontières, avec la suppression des vols aériens, tout ça s'est complètement désorganisé, c'est-à-dire presque du jour au lendemain. Les marins ont commencé par dire « Ok, on veut bien rester un peu plus longtemps à bord ». Ils ont donc joué le jeu de la continuité du service, encore une fois, et c'est pour ça que je les salue. Et ils ont, dans un premier temps, accepté de prendre un peu sur leur temps d'embarquement au-delà du contrat de travail qu'ils avaient. Et puis, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup, et on a considéré qu'il était urgent de trouver des solutions, mais pays par pays, c'est ça la difficulté, c'est qu'on a fait des protocoles, on s'est mis d'accord dans le monde des armateurs, on s'est mis d'accord dans les institutions internationales, mais après c'est chaque pays qui devait finalement prendre en mettre en place les mesures adéquates.
Oui, mais alors justement, Jean-Marc Lacave, il y a quand même des règles internationales pour les navires. Il y a, si je ne me trompe pas, la convention de 1923 sur le régime international des ports maritimes qui dit que tous les navires doivent être traités de la même manière, qu'ils soient finalement, qu'ils affichent pavillon du pays dans le port dans lequel ils sont ou pas.
Oui, non, mais alors il y a des règles, évidemment, tout ça est très bien écrit dans un certain nombre de conventions internationales, et puis dans chaque pays, il y a même des conventions propres. Vous savez que au niveau international, les temps d'embarquement ne doivent pas dépasser 12 mois. En France, on a le code des transports qui dit que les temps d'embarquement ne peuvent pas dépasser 6 mois, et que s'il y a des accords collectifs, on peut aller jusqu'à 9. Mais on peut aussi descendre en dessous. Donc tout ça est très bien réglementé, mais on a dépassé les seuils, en l'occurrence dans certains cas, parce que des marins n'ont pas pu tout simplement être rapatriés ou descendre même de leur navire. Vous avez des endroits où les marins, il fallait qu'ils fassent une quatorzaine avant de rentrer sur le port, pour peu qu'ils aient réussi à entrer dans le pays en trouvant un avion. Il fallait qu'ils aient ensuite un test, qu'ils aient vu un médecin, qu'ils aient certaines attestations donc sur leur état de santé pour pouvoir monter à bord. Et ceux qui descendaient du bateau, qui se faisaient remplacer, ils ne pouvaient pas non plus descendre sans démontrer qu'ils étaient en bonne santé et qu'ils pouvaient effectivement se mêler à la population du pays avant de trouver un vol pour revenir. Et on voit bien que chaque pays, en fonction du taux de pénétration de l'épidémie, a plus ou moins été strict dans ses règles. Et chaque pays a donc, on a dû faire face finalement à des complexités très variables, et des grands ports, comme je disais, comme Singapour par exemple, qui est quand même un des ports les plus importants au monde, c'était extrêmement compliqué de pouvoir faire une relève alors qu'il y a énormément de bateaux qui y passent, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Même en Europe, il y a eu des difficultés, et c'était donc des traitements au cas par cas, où les ambassadeurs, les consuls, les états du pavillon, tout le monde s'y est mis, et nous évidemment également, pour qu'on essaie de trouver des solutions à chaque situation où on dépassait les temps d'embarquement.
Alors, on va revenir notamment sur le cas africain dans quelques instants. Pascal Pouille, c'est quand même problématique que finalement il existe des règles internationales pour régir tout le mouvement maritime, et que même si cette crise est exceptionnelle, finalement ces règles ne s'appliquent plus en ce moment.
Non, mais on parle beaucoup de règles dans le monde maritime, mais votre intervenant faisait part de 12 mois maximum, qui est absolument pas vrai. Je suis désolé de vous dire, c'est la MLC et c'est une...
C'est la Maritime Labour Convention, la Convention du travail maritime.
Qui regroupe 35 conventions internationales, et dans cette partie-là, les 12 mois, c'est la partie B qui est une simple recommandation, et d'ailleurs, on n'a aucun outil pour faire débarquer les gens au bout de 12 mois. Mais c'est juste pour vous prouver que le problème de la réglementation maritime, elle est belle sur le papier, mais elle est difficile, et très souvent difficile à mettre en place. Le vrai souci, j'entendais aussi que les marins ont accepté, je dirais accepté contraint et forcé, de prolonger leur contrat. D'ailleurs, tous les pavillons étaient en tort par rapport à la réglementation internationale, puisque quand un contrat de travail se termine, on est dans l'obligation de débarquer le marin, sauf si... Un mois avant, il y a eu donc une prolongation avec un accord des deux parties. Là, les pavillons, de façon à déroger à la règle internationale, ont donné leur accord pour que les contrats de travail soient immédiatement renouvelés dans l'instant T. Donc, effectivement, les marins étaient contraints et forcés, et là je n'accuse pas non plus les amateurs étaient dans un système qui les mettait aussi en difficulté, parce que effectivement les aéroports fermés, les ports fermés. Il faut savoir qu'en France par exemple, en plusieurs mois, les marins ne sortaient pas, restaient à bord, et aujourd'hui on a encore des armateurs, et j'ai des témoignages qui demandent à leurs marins de ne pas sortir, alors que là, en France, on est déconfiné, que la pandémie n'est pas partie, mais qu'elle s'est légèrement éteinte. Et donc, tout ça, ça a créé une vraie pression psychologique sur les marins, et pas de la faute de la faute des armateurs ou de la faute du droit international. C'est plutôt les politiques de chaque pays fournisseur de manœuvres, parce que ces gens-là, que ce soit l'Inde, les Philippines, l'Ukraine, la Turquie, tous ces pays-là ont mis des règles hyper strictes pour le retour de leurs marins. Ils sont heureux de voir ces gens-là partir, mais et contribuer entre.
Mais ils ne souhaitent pas les voir revenir.
Mais ils ne voulaient pas les voir revenir parce qu'ils ne voulaient pas voir la peste revenir dans leur pays. Voilà. Et c'est ça le vrai problème. Et je pense que le lobbying politique n'a pas été intense comme il aurait dû l'être. Et toutes ces grandes organisations internationales qui nous vendent du vent en permanence n'ont pas réagi absolument pas.
Alors Pascal Pouille, justement, on a l'impression quand même qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures selon la nationalité des marins. C'est-à-dire que des marins, par exemple, européens, ont eu plus de facilité à revenir dans leur pays que des marins, alors vous le disiez, indonésiens, philippins ou malgaches notamment, hein, parce qu'on est très écouté à Madagascar. Ça n'a pas été facile et ce n'est toujours pas facile pour eux.
Oui, effectivement. Attention, au début du confinement en France, il était très compliqué de faire débarquer un marin, quelle que soit son origine. D'ailleurs, il y a eu des réunions à direction des affaires maritimes à Paris, auxquelles je pense que les armateurs ont participé. Et il y a eu un tas de présentations, d'intentions, mais qui n'ont pas abouti à grand chose, si ce n'est que effectivement c'était cas par cas, ça dépendait du préfet maritime, ça a toujours été compliqué et ça l'est encore aujourd'hui, mais pour une raison légèrement différente qui fait que on n'est pas l'aviation n'a pas repris, quoi, et que les marins se retrouvent bloqués malheureusement parce qu'il n'y a pas de moyens de transport.
Jean-Marc Lacave, donc on a bien compris qu'il y avait cette espèce de millefeuille décisionnel qui bloquait un certain nombre de marins, donc en mer ou à terre. On a compris aussi dans ce que disait Pascal Pouille qu'il y avait des vraies inquiétudes pour les risques psychosociaux, pour l'état de santé des marins qui ne peuvent pas débarquer. S'ils ont un problème de santé, c'est quand même compliqué. Que font les armateurs à ce niveau-là? Est-ce que vous avez mis en place un suivi pour les marins qui sont toujours malheureusement bloqués sur leur bateau?
Alors, plusieurs éléments. Pour dire d'abord que les armateurs, ils ne cherchent pas à tirer sur la ficelle en laissant les marins longtemps à bord, au-delà de leur temps normal d'embarquement. Si on a prolongé des temps d'embarquement, c'est effectivement contraint et forcé, parce qu'on n'arrive pas, et c'est pas de notre fait, à les relever à cause des contraintes pays par pays. Nous sommes très attentifs. On a comme priorité, je veux dire, de relever les équipages. On est très attentifs au respect des durées d'embarquement. Pourquoi ? Parce que précisément, il y a le bien-être des marins. Précisément, il y a donc la santé des marins, que ce soit physique ou psychologique. Et puis, il y a la sécurité maritime, la sécurité du navire. Et on voit bien qu'effectivement, c'est un métier dans lequel il faut que chacun soit au top de ses performances.
Oui, parce qu'il faut savoir pour nos auditeurs qu'un marin travaille 7 jours sur 7 quand il est sur un bateau. Alors, il y a un système de garde, etc. Mais c'est 7 jours sur 7 pendant des mois et des mois.
Voilà, avec les temps de repos, évidemment, qui sont légaux entre chaque quart, etc. Mais vous avez de fait besoin, nous avons besoin de marins qui sont au top de leur performance, et pour eux-mêmes, et pour la cargaison, et pour les navires, et pour la sécurité en mer. Donc, on ne joue pas avec ça, et notre priorité, c'est bien d'assurer la relève de nos marins. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas effectivement de discrimination de nationalité. Pour nous, avec ce que je viens de dire, c'est pas parce qu'un marin serait français ou malgache ou philippin que on devrait faire une discrimination. Ils ont tous leur rôle, leur importance à bord, et donc la relève, elle doit concerner tout le monde. Au point même d'ailleurs que, avec des compagnies aériennes comme Air France, on a réussi à faire des rapatriements Gabon-Manille, par exemple, en payant des voyages Gabon-Paris, Paris-Manille, pour que les gens, effectivement, les Philippins, trouvent à être rapatriés convenablement.
Alors ça, vous faites ça en tant qu'armateur français, et nous l'entendons. Malgré tout, et si on regarde encore la réglementation, normalement, c'est au pays dont le navire affiche le pavillon d'avoir la responsabilité des marins, et donc potentiellement de les rapatrier. Est-ce que ça ne va pas poser à moyen terme la question de ce qu'on appelle les pavillons de complaisance ou de tous ces pays qui immatriculent un grand nombre de navires et qui, là, on s'en rend compte, n'ont pas du tout les moyens de rapatrier tous ces marins qui sont sur ces navires?
Alors, moi, je ne peux pas répondre pour les autres pavillons. Je parle du pavillon français qui est un pavillon. Alors, évidemment, c'est mon rôle de le dire, mais c'est un pavillon d'excellence en matière de sécurité, en matière de droit social. Je ne sais pas si mon interlocuteur partage ce point de vue, mais en tout cas, on considère qu'effectivement, on met un point d'honneur par nos chartes sociales, par nos accords de branche, par les accords d'entreprise, à ce que le pavillon français soit exemplaire. Et de ce point de vue-là, c'est pas un hasard s'il est considéré parmi les meilleurs en matière de sécurité maritime, par exemple, parce que on met les moyens qu'il faut. Après, il y a effectivement...
Pardon ? Allez-y.
Non, je dis qu'après, effectivement, il n'y a pas que le pavillon français, mais moi, je ne peux pas répondre pour les autres. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons des associations nationales, internationales d'armateurs, européennes et mondiales, et que tous autour de la table, on était toutes les semaines à se réunir pour voir comment accélérer la prise en compte, la prise en considération des marins par les autorités politiques des pays et comment on leur fournissait les protocoles qui vont bien pour les convaincre que nos marins, même s'ils n'étaient pas des key workers, comme on dit, c'est-à-dire des travailleurs essentiels, ce qu'on regrette nous-mêmes profondément, mais devaient être traités avec en priorité et pour continuer les chaînes logistiques.
Alors, on va revenir sur la question des key workers en toute fin d'émission. Je voulais d'abord entendre Pascal Pouille à ce sujet, sur la question des pavillons et des responsabilités des pays immatriculant les navires.
Bah, écoutez, je pense que pour moi, la première responsabilité a été aux pays fournisseurs de main d'œuvre. Parce que effectivement, quand on regarde, par exemple, les Philippines, je crois que c'est plus de 600 000 marins là-bas. L'Ukraine, c'est 45 000 marins, la Turquie aussi, l'Inde, c'est plusieurs dizaines de milliers de marins. Et quand ces pays-là ferment totalement leurs frontières et n'autorisent même pas leurs propres marins à rentrer, il est clair que ça crée un problème. En ce qui concerne les pavillons, l'état des pavillons, enfin le pavillon, si on prend par exemple le pavillon maltais, c'est quand même le premier entre guillemets income pour Malte. Je ne sais plus combien de centaines de millions d'euros rapporte le pavillon maltais à Malte. Donc c'est un produit.
Alors, c'est un produit, mais ça entraîne des responsabilités également.
Oui, ça entraîne des responsabilités, mais voilà, on se cache derrière des droits ou des faux semblants. Et de toute façon, il n'y a aucune sanction quand un pavillon est attrapé à plusieurs reprises en Europe. On a beau le dénoncer à l'Organisation maritime internationale, il se passe absolument jamais rien. Donc les pavillons ont probablement leur responsabilité pour moi aussi, parce qu'ils n'ont pas assez insisté sur les politiques des différents pays pour que les marins puissent rentrer. Mais je pense que c'est pas leur réel problème. Leur réel problème, c'est d'avoir l'argent qui tombe tous les ans pour leur pavillon qui est mis au cul d'un navire. Voilà.
Merci beaucoup. Merci Pascal Pouille, responsable des inspecteurs maritimes français et représentant des syndicats maritimes auprès de la Fédération internationale des travailleurs du transport. Et merci également à Jean-Marc Lacave, délégué général des armateurs de France. Merci également à Fabrice Viollet et Sybille Clamins à la réalisation ce soir. Et à Arnold Assewa qui a préparé cette émission. Excellente soirée à l'écoute de RFI.